Joël, Nadia et Jean-Michel, format A3.
C'est donc avec une belle histoire de la photographie que nous ouvrons le format A3 de ce mardi.
Et c'est aux origines de la photographie que nous vous emmenons avec Christophe Brandt, historien de la photographie et directeur de l'Institut Suisse pour la conservation de la photographie.
Christophe Brandt, bonjour.
Bonjour.
Vous serez donc ce soir à Delémont pour une conférence qui nous invite à faire un petit tour, un petit retour en arrière, au cœur de l'invention de la photographie entre 1839 et 1860. C'est une révolution à l'époque. Qu'est-ce qui a permis cette invention ?
Alors, tout d'abord, c'est la révolution industrielle qui se développe en France, en Angleterre singulièrement, peut-être un peu plus tardivement dans le reste du sud de l'Europe. Mais c'est l'avènement donc d'un nouveau médium. Et ce qui est intéressant ce soir, eh bien, c'est de démêler comment le médium, la photographie, qui n'existe pas encore en 1839, puisque le mot et la chose adviendront seulement en 1840, de l'autre côté du Channel en Angleterre, eh bien, c'est précisément de voir, de comprendre comment dans ces deux pays, ce nouveau médium va éclore de manière très différente, une fois sur le métal, une fois sur le papier, et de voir les enjeux qui se sont noués au travers de ces recherches et des deux savants ou trois personnes qui ont contribué à son invention.
Il y a deux origines à la photographie, l'Angleterre d'un côté, la France de l'autre, et puis vous l'avez dit, il y a déjà un petit peu le papier et le métal. La photographie commence déjà à se chercher à ce moment-là.
Alors la photographie, c'est Nice et Fornièvre, c'est la Bourgogne, c'est Chalon-sur-Saône, et puis c'est sa rencontre avec Jacques Mandé-Daguerre, le directeur du Diorama, ce théâtre d'ombre et de lumière, et puis c'est bien sûr la France avec Louis-Philippe, c'est la France avec Arago, le président de l'Académie des sciences, qui va finalement offrir à la France le procédé. C'est un pays qui est derrière Daguerre et c'est un pays qui va acheter le procédé et l'offrir au monde. C'est une très grande force d'avoir un pays en entier avec le roi des Français, Louis-Philippe Ier, qui contribue à la propagation et au développement de ce procédé. Alors que de l'autre côté du Channel, Talbot est bien seul.
Alors quand on crée un procédé, quand on crée un objet, il faut évidemment lui donner un nom. Le nom a été choisi, photographie, comment est-ce que c'est né ?
Alors la photographie, c'est-à-dire le mot et la chose, sont véritablement nés en 1840 avec Talbot. Talbot est un homme, contrairement à Niépce qui est un gentilhomme des campagnes, un inventeur certes, mais un inventeur un peu naïf. De l'autre côté, Talbot est un scientifique de renom qui fréquente la Royal Academy, qui est un savant, qui maîtrise physique et chimie, qui maîtrise parfaitement le latin et le grec, et qui, à ses heures perdues, pratique ce qu'il appelle des photogenic drawings, des dessins photogéniques, c'est-à-dire qu'il prend un papier, sans doute Whatman, puisqu'il est anglais, il le sale et il met du nitrate d'argent dessus. Et ensuite, il se rend dans son jardin, il attrape des orchidées, il attrape des papillons, il attrape divers éléments translucides, végétaux ou animaux, et il les pose sur sa feuille et se rend compte que l'argent va noircir sous l'action du soleil. Et c'est ainsi qu'il va découvrir la photographie. Il ne sait pas très bien comment la fixer. Alors, il s'enquiert auprès de son ami savant John Herschel, qui lui dit « Mais je t'ai déjà dit que c'est l'hyposulfite de sodium qui permet de fixer.
» Bah, évidemment. J'aurais dit la même chose.
On se rend compte que l'invention est mûre. Hein. Il faut aussi rappeler qu'on avait un homme qui s'appelait Andreas Gerber, qui dès 1836 a utilisé en tant que médecin, chirurgien, la photographie. On n'a jamais retrouvé ces éléments, les pièces photographiques, mais le Béobarter en parle. On a Hercule Florence, dont on a découvert en 1970 qu'il avait Ario, lui aussi fait des positifs directs, donc c'est un procédé qui contribue, qui est dans l'air du temps, et on voit qu'il y a de nombreux chercheurs qui étaient au bord de la découverte, et il y a un homme très important en France, c'est Hippolyte Bayard, qui fera son fameux portrait de lui-même, son autoportrait en noyer, puisque l'Académie des sciences, le gouvernement, personne ne l'écoutera, et c'est une manière pour lui de dire à quel point la France l'avait oublié, la France l'avait délaissé. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est de comprendre que la France a choisi cette photographie sur métal, qu'on appelle daguerréotype, qu'on n'appelle pas photographie, qui est une pièce unique, c'est un peu comme un polaroïde, qui a quelque chose de très sec, qui a quelque chose de très pointu, de très net. Baudelaire disait « La photographie ne peut pas être participée de l'art, elle n'est que l'ombre servante des arts, parce que précisément tout y est net et tout est sur le même plan.
» Donc il n'y a pas de nuance. C'était comme ça que Baudelaire voyait les choses.
En tout cas, Baudelaire avait une passion aussi, parce qu'effectivement, on y voit l'être aimé, on y voit sa mère, on y voit ses frères. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans la photographie, mais elle ne pouvait pas participer au monde de l'art. Le monde de l'art, c'est la théorie du sacrifice, c'est mettre des choses en avant, c'est en éliminer d'autres, c'est aussi la main de Dieu, c'est l'artiste. Et il y avait quelque chose de photomécanique, c'est le cas de le dire.